Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est avec Mario Bartoli, Pascal Duprat, avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski et vous au 32-16. Évidemment, vous retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast déjà. On s'est posé une question, on a eu un débat enflammé entre les GG avec vous les auditeurs. Est-ce que les Bleus ont raté leur Coupe du Monde? On rappelle, ça s'est terminé hier soir par une quatrième place après la défaite un peu invraisemblable, 6-4 face aux Anglais à Miami. On va parler dans un instant, dans le j'y crois pas, de la finale de la Coupe du Monde, Argentine-Espagne. Est-ce que Messi et son histoire est plus importante que cette finale? Et puis en fin d'émission, participer au jeu du sport avec vos GG ce week-end, remporter un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Et oui, pour imprimer vos meilleures photos de vacances, hein, vous voyez. Et puis ensuite avoir un album photo, voilà, ou même sur un mug par exemple, pour remporter votre bon cadeau Agfa Photoprint, s'appelle le 3216 touche 4 ou sport, ou envoyez sport au 73216, sport au 73216. Par exemple, je suis sûr que Marion l'utiliserait pour imprimer des photos d'elle qui a gagné Wimbledon et le mettre sur un mug. Tu vois,
oui, genre, je suis tellement égocentrique.
C'est mon mug.
Oui,
tout de suite sur le ring. J'adore régler mes comptes comme ça avec Marion à distance.
Mais pour Noël, on donne tout ça apparemment. Ouais.
C'est vrai, un mug.
Un mug de Marion.
Ah ouais, bien sûr.
Merci Marion d'ailleurs.
J'en prie, avec grand.
Allez sur le ring, les amis, le Tour de France nous enflamme enfin.
Ça
grâce
va
à
se payer par contre, Georges. La rentrée partout, item, c'est très bientôt.
Oui, je sais, donc c'est pour ça que je profite de ces petits moments de calme là pour placer ce que je peux. Allez, voilà. Le Tour de France nous enflamme enfin grâce à un certain Paul Sexas. Et si c'était ça en fait, notre feuilleton de l'été.
RMC, le ring des GG.
Qui y va et personne ne réagit derrière. Pour l'instant, personne ne réagit. Il se joue peut-être quelque chose d'important.
Il nous bluffe, notre polo national, 19 ans à peine. Il est là, à la bagarre, avec les cadors, avec les géants du Tour de France. Il est là, il tient son rang, il nous épate une nouvelle fois.
Et lui, il a 19 ans, il devrait encore être espoir en train de jouer dans le bac à sable. Et il est là avec eux, en train de les regarder droit dans les yeux. Et peut-être même qu'il va les attaquer bientôt.
Ah, il est parti, Paul! Il est parti!
Ouais, Paul Sexas qui a lâché Lipovic et Ayuso. Et il est en train de revenir peut-être sur Vingegaard, il est en troisième position désormais, Paul Sexas.
Ouais. Paul Sexas, il est en train de faire vraiment une superbe ascension, le Français. Paul Sexas, il a un objectif, il est poussé par les gens, il est poussé par ce public. Le petit jeune de 19 ans, notre Français, notre espoir, notre élu.
Ah, il revient, Paul, il gagne Maître Martin.
Il est là.
Voilà, juste derrière Jonas Vingegaard.
C'est le démarrage des Arrêts Del Toro avec Paul Sexas qui va réagir et qui va surprendre Jonas Vingegaard. C'est bien joué de la part de Paul Sexas. Il va prendre la roue d'Isaac Del Toro. Malheureusement, il ne pourra sans doute pas battre Isaac Del Toro. Deuxième Isaac Del Toro. Troisième Paul Sexas. Mais il gagne du temps aussi sur Jonas Vingegaard. Et bien sûr, sur les hommes comme Florian Lipovic, Juan Ayuso et Remco Evenepoel qui passent à l'instant la nuit.
Voilà, je vous imagine déjà en fait inonder les Champs-Élysées la semaine prochaine, à l'Arc de Triomphe, c'est que ça se président, les drapeaux français et tout, à nous en vibe. Yes.
Ouais, excusez-moi, je suis on aura ça comme qui devant, tout devant.
Absolument. En train de vénérer Polo.
Bon, évidemment, on s'enflamme un peu. Hein,
c'est
on
mais est là c'est pour ça. Le sport aussi, l'enflammade.
Mais bien sûr, il a crevé l'écran, le Français de 19 ans hier.
Et s'il fait pas troisième, il a raté son Tour de France.
Remettons pas des pièces comme ça.
Tu veux vraiment que je te réponde?
Non,
pas tout de suite. Ça. Il a été excellent hier sur la 14e étape entre arrivé au Markstein dans les Vosges, derrière l'intouchable Pogacar. Paul a tenu tête à Vingegaard et même fini devant lui. Ce matin, il est quatrième hein, au général à 59 secondes du Danois, il y a 15 secondes seulement de Remco Evenepoel, troisième. Sexas porte ce matin le maillot blanc de meilleur jeune raflé hier à Juan Ayuso avant la grosse étape du jour, 184 km entre Champagnol et une arrivée en altitude au plateau de Solaison après plus de 3950 mètres de dénivelé. Déjà, je vais l'accueillir, il est dans l'équipe de l'Intégral Tour des 13h aujourd'hui sur RMC. Jérôme Coppel nous rejoint, salut Jérôme.
Salut Georges, salut à tous.
Bonjour.
Sur la route pour rejoindre l'arrivée. Alors les GG, je vous pose salut, cette question ce matin. Est-ce que Sexas doit viser la deuxième place? Tiens, on va reconfirmer vos réponses. Fred?
Oui.
Sarah?
Oui.
Pascal?
Non.
Marion?
Je lui souhaite le podium. Deuxième, je trouve que c'est dur. Ah. Bon, allez, pourquoi pas, je m'enflamme.
Jérôme?
Il peut, mais il ne doit pas viser la deuxième place.
Ah, sur le compte, X, sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais il est fin en général, c'est le professeur, Jérôme, on le connaît.
Bah, en tout cas, fin, je suis le plus affûté de la bande. Donc,
T'as pas vu Fred revenir de vacances.
Non, je parlais de la bande de l'intégral tour, moi. Je te dis pas Christophe Cessieux, on le rentre par la fenêtre du camion maintenant.
Je suis bien affûté.
Sur le compte X, vous dites oui, il doit viser la deuxième place à 75%. Tiens, avant de débattre, Léna Marjac qui suit Paul Sexas à la trace depuis le début du tour pour RMC est avec nous. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde.
Léna qui se lève, salut. Paul Sexas qui salut mange, Léna. Quoi que c'est Paul Sexas qui est tout, voilà, tout.
C'est, je tout Paul Sexas.
Tu tout Paul Sexas. Allez, elle va finir par être Paul Sexas, peut-être, à force de le suivre. Qu'est-ce qui se dit autour du coureur français après son étape d'hier, Léna?
Bah, je vous entendais un peu vous enflammer autour de lui. Bah, sachez que même dans ses coéquipiers, on s'enflamme un petit peu, hein, parce qu'on se dit que tout est permis de voir Paul Sexas au plus haut sur ce Tour de France. Et la preuve en est justement avec Tige Benoot, hein, son coéquipier belge, à l'arrivée hier soir.
Ça donne envie pour continuer, oui. Le plus haut possible, c'est ça qu'on a dit depuis le début du Tour. Si c'est 3, 4, 5, 12, on verra. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas fait des erreurs. Et on va essayer de continuer à faire comme ça.
Ça fait deux aussi, Tige.
Peut-être il gagne.
Peut-être il gagne aussi le Tour de France, carrément. Évidemment, il y a un petit peu de sourire, hein, dans la voix de Tige Benoot, parce qu'il faut évidemment ne pas oublier l'ogre slovène Tadej Pogacar, un maillot jaune et vainqueur déjà de 4 étapes sur ce tour. Et d'ailleurs, Julien Jurdi, le directeur sportif chez Decathlon CMA-CGM, préfère, alors on va dire, rester lucide, ne pas trop s'emballer.
On veut vraiment rester les pieds sur terre et parce que c'est assez facile à dire, mais voilà, on veut malgré tout rester sage et prudent par rapport à nos ambitions du classement général à l'arrivée à Paris. Il nous restera la fameuse troisième semaine qui, tout le monde le sait, dans les grands tours, classe les grands champions.
Alors, est-ce que Paul, à 19 ans, pour un premier grand tour, peut devenir déjà ce grand champion? Pour ça, il va falloir déjà aujourd'hui faire un grand numéro au plateau de Solaison. Mais à écouter Paul Sexas, il reste sûr de lui et même un peu ambitieux.
Pour l'instant, si ça peut continuer ainsi, si je peux avoir des bonnes jambes, faire des bons efforts, faire bien gérer mes montées et continuer à récompenser l'équipe ainsi, je pense que c'est très bien.
Et puis en plus, hein, l'oubliez pas, aujourd'hui Paul Sexas au plateau de Solaison arrive chez lui, hein, il y aura son public, sa famille, ses amis, ce sera sûrement un gros supplément d'âme pour le coureur français.
Et si c'était le week-end de Paul Sexas, effectivement, merci Léna de nous avoir raconté ça. Évidemment, on te retrouve dans l'intégral tour cet après-midi au plus près de notre champion français. Sexas doit-il viser la deuxième place? Tiens, Jérôme, avant de t'écouter, Pascal, j'aimerais bien savoir pourquoi tu nous dis non.
Ben parce qu'en fait, tout dépend ce que l'on est prêt à accepter, ou en tout cas ce que Sexas, ses coéquipiers et ses directeurs sportifs, l'équipe est prête à sacrifier. Parce que aller courir après la deuxième place, c'est peut-être prendre des risques, et ces risques peuvent te faire tout perdre. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que Sexas et ses coéquipiers courent au millimètre. Je suis pas un spécialiste, mais j'adore le vélo. Courent au millimètre et ça lui permet de prétendre, en courant comme ceci, en continuant à le faire, en suivant les meilleurs, bah peut-être qu'il va y avoir de belles choses, parce que peut-être que l'ogre, eh ben, il peut avoir, 10 crevaisons dans la même étape et plus de vélo, donc il peut peut-être finir à pied.
Ah, ça arrive à Chris Froome, hein, sur une montée du Ventoux une année.
Il a quand même gagné le tour.
Et il avait quand même gagné le tour, exactement. T'as raison. Jérôme, toi, alors, est-ce que, en fait, c'est un objectif raisonnable de se dire qu'il faut qu'il aille se battre avec Vingegaard?
Non,
parce que c'est ça, en fait, la deuxième place.
Oui, mais en fait, il faut pas se tromper d'objectif. Il doit continuer, c'est là où je rejoins Pascal, c'est qu'il doit continuer à courir comme il court, et s'il est bien, s'il craque pas, peut-être que la deuxième place va venir toute seule. Mais ça doit pas devenir un objectif, c'est-à-dire de courir différemment pour faire péter Jonas Vingegaard et la Visma Lisebike. Ça serait une erreur, parce que, bah, comme l'a dit Pascal, il pourrait péter en vol et finalement tout perdre. L'objectif, au départ, ils l'ont jamais vraiment donné, hein, Decathlon CMA-CGM d'ailleurs. On a vaguement entendu parler d'un top 5, on a entendu Tige Benoot dans le reportage de Léna qui dit le classement le plus haut possible, il dit 2e, 3e, 5e, 12e, mais l'objectif ne doit pas changer, c'est pas parce qu'il est à ras le podium, 4e du classement général, qu'il faut se tromper d'objectif maintenant, alors que la 3e semaine la plus difficile commence seulement aujourd'hui. C'est son premier Tour de France, lui doit rester concentré sur ce qu'il fait sur les étapes avec son équipe, sans se dire je vais aller chercher la deuxième place. Il doit aller chercher le plus haut classement possible. Point. On a vu hier qu'il était capable de peser dans le final d'une course, et les étapes qui viennent, à mon avis, vont lui être encore plus favorables, parce qu'il n'y aura pas de partie de replat comme on a pu voir sur Lioran ou sur l'étape d'hier du Markstein. Parce qu'hier, par contre, si l'arrivée au sommet, peut-être qu'il rattrape Vingegaard, peut-être qu'il le lâche. Pour l'instant, à la pédale, en haut du Tourmalet, qui étaient les trois premiers? Pogacar, Vingegaard, Paul Sexas. En haut de la dernière difficulté hier, la deuxième plus grosse difficulté jusqu'à maintenant de ce Tour de France, Pogacar, Vingegaard, Paul Sexas.
Mais à un moment donné, à la pédale, chose déjà.
C'est les trois plus forts du Tour à la pédale, point. Maintenant, c'est pour ça, Vingegaard, il a quand même l'équipe, il a quand même l'expérience, même si c'est pas le grand Vingegaard qu'on a connu qui arrivait à battre Tadej Pogacar,
il a quand même encore rappelle,
une... Voilà, on y a quand même eu le Giro, mais il a quand même une petite marge sur Paul Sexas. Donc maintenant, c'est pas le moment de... Je vous rappelle qu'au début, beaucoup d'entre nous ou d'entre vous vouliez pas voir Paul Sexas sur le Tour de France.
C'est vrai,
maintenant qu'il y est, qu'il performe, faut pas vouloir brûler trop d'étapes et se dire qu'on va viser la deuxième place. Faut rester dans son plan de marche.
Je rappelle juste que RMC BFM fait partie du groupe CMA-CGM, ce qui nous empêche pas de parler, de débattre tout à fait normalement sur ce qui se passe autour de Paul Sexas. Tu voulais rajouter quelque chose, Sarah? Alors Sarah, en plus toi, certains auditeurs disent qu'il faut que tu fasses ton mea culpa.
Tu l'as fait.
Non mais tu croyais pas du tout.
Mais effectivement, avant-hier, la 14e étape, hier c'était la 15e.
C'est pas très important.
Vendredi,
aujourd'hui c'est la 15e.
Où je vois que Pidcock reprend des secondes sur Paul Sexas. En fait, j'avais pas mesuré les étapes, effectivement, où Paul Sexas allait avoir vraiment son talent qui allait s'exprimer. Et hier, ça s'est vu, en fait. Et il relègue aussi Evenepoel qui est devant lui au classement. Et tu peux te dire qu'aujourd'hui, il peut grappiller encore des secondes. Mais il y a aussi le contre-la-montre,
mardi
prochain, où il peut jouer sa carte. Moi, j'ai une question pour toi, Jérôme. Est-ce que il peut jouer et le podium et le maillot blanc, ou est-ce que dans l'un des, qu'est-ce qui est le mieux en fait est-ce qu'il vaut mieux faire podium?
Ça va venir naturellement.
Oui. Ouais.
Il y aura pas le choix, en fait, parce que ses adversaires au maillot blanc, Ayuso et Del Toro, jouent aussi le podium. Donc, en fait, le meilleur des jeunes sera pas loin du podium et aura le maillot blanc. Donc, en fait, c'est
si le maillot blanc si viendra podium, avec la performance.
Marion, est-ce que Paul doit tout tenter, justement, pour aller chercher la deuxième place, au risque de tout perdre? Parce que c'est ça la question, alors que c'est son premier Tour de France, qu'il est dans un territoire inconnu, là, pour lui. On rappelle, il a jamais fait une course de 3 semaines.
Non, moi, pour moi, je suis complètement alignée avec ce qu'a dit Jérôme. Et puis surtout, faut quand même pas oublier un élément, et ça me paraît quand même important, c'est que c'est le plus jeune cycliste à finir pour l'instant, s'il termine simplement sur le podium, donc troisième, depuis Henri Crochet en 1904.
On se rappelle d'Henri, sacré coureur.
C'est pour placer l'exploit que ça représente. Déjà, être troisième, ça sera un exploit qui serait mais monumental. Donc, ne lui donnons pas des objectifs qui sont quasiment, je dirais pas inatteignables, parce que j'ai l'impression qu'avec Paul, rien n'est inatteignable pour lui, mais en tout cas, qui lui brûlerait les ailes beaucoup trop rapidement. On a déjà été effectivement, et Jérôme a parfaitement eu l'intelligence de le rappeler, on avait des débats en disant est-ce qu'il doit y aller, est-ce qu'il ne doit pas y aller. Moi, j'étais plutôt favorable à ce qu'il le fasse parce que je pensais qu'il avait la capacité d'aller faire un bon classement. Très honnêtement, j'étais loin de penser qu'il pourrait finir sur le podium. La force est de constater, au vu de son étape, la 14e, sa dimension a totalement changé, et sa candidature aujourd'hui au podium, c'est plus une vision, il est totalement en capacité.
Oui, c'est crédible, crédible aujourd'hui.
Exactement. Alors après, le point d'interrogation, et c'est ça qui est fascinant, c'est effectivement la 3e semaine du Tour, puisque c'est un coureur qui n'a jamais disputé pour l'instant une course, qui a dépassé 9 jours dans sa carrière, dans sa très très jeune carrière. Donc, est-ce qu'il sera en capacité de tenir et de continuer à jouer le général? C'est ça qui va être fascinant. Mais ne lui demandons pas d'aller taper Vingegaard, parce que pour moi, si justement il perd tout, ça serait vraiment pour lui, je pense, pas le récompenser de tous les efforts qu'il a effectués. Donc, si déjà il arrive à finir troisième, ça serait absolument fabuleux. C'est des courses qui sont extrêmement difficiles. Il y a tout un travail d'équipe à réaliser. Il y a encore de très grosses étapes, notamment en montagne, où là, justement, il peut faire parler à la pédale toutes ses qualités.
Mais il y a beaucoup de coureurs qui peuvent faire parler à la pédale aussi, toutes leurs qualités, Vingegaard, Del Toro, notamment, qu'il ne faut pas enterrer.
Ça serait déjà absolument
Lipovic. Ce serait effectivement, on allait se poser la question si ça allait être un exploit. Fred, avant de réécouter Jérôme, toi, tu as envie qu'il se batte.
Mais bien sûr que j'ai envie qu'il se batte.
Dans sa tête, en tout cas.
Je ne suis pas d'accord avec Marion, mais ça, c'est pas surprenant. Mais paradoxalement, je pensais être d'accord avec Jérôme, et on ne l'est pas. Lui, il parle d'objectif. L'objectif, quand tu es un sportif de très haut niveau, quand tu découvres, parce que c'est son premier tour, Marion l'a rappelé, rappeler. Il ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ben, ça évolue, un objectif. L'objectif, il doit continuer à être de plus en plus intéressant.
Parce que tu te rends compte que t'as les armes.
Moi,
en fait.
Moi, l'étape d'hier, pour moi, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire qu'il est Pogacar, oui, c'est le patron, c'est le boss, et qu'il soit là, juste derrière. Donc, pourquoi ne pas aller
lâcher Vingegaard, hein.
Pourquoi ne pas essayer de prendre des risques? Et ça serait quoi le risque qu'il perde tout? Ça serait quoi? C'est son premier tour. On s'en fout. Je voulais absolument qu'il fasse ce tour pour découvrir, pour savoir comment ça allait se passer.
Là, on est d'accord.
Pour savoir comment il peut évoluer dans ce contexte. Bah, donne tout.
Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Le côté, effectivement, oui, il est là aussi pour nous enflammer.
Mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Pas grand-chose.
Il a rien à perdre. C'est son premier tour.
Jérôme.
Non, alors, pour moi, l'objectif de Paul Sexas sur ce tour, avant même le départ, c'était de le terminer et de pouvoir peser sur le tour d'une manière ou d'une autre en troisième semaine, pour voir comment il allait réagir en troisième semaine. C'est-à-dire ne pas subir, rappelez-vous, le premier tour de Lenny Martinez, je compare pas du tout ces deux coureurs, mais Lenny Martinez avait subi pendant trois semaines. L'objectif premier de Paul, c'est, et son patron Dominique Series l'a rappelé, c'est de terminer le tour. Si en plus il peut peser sur la course, ça c'est bien. Mais maintenant, l'objectif, tu l'as dit Fred, il évolue avec les circonstances de course, mais il y a aussi toute une équipe derrière. Croyez vraiment que Decathlon CMA-CGM qui a son prodige va lui dire bah fais tapis, tente tout, même si tu vas finir 120e? Non, ça ils sont pas d'accord, ils vont pas être d'accord avec ça. Et surtout toi Fred, je suis pas du tout surpris que tu penses comme ça, on pense pareil, mais pense à tous les gens qui sont un peu moins sportifs, qui pensent un peu moins ça. Si un jour, moi, si demain ou aujourd'hui ou mardi, enfin ou mercredi sur une étape, il prend 7, 8, 10 minutes et il termine 100e du classement général, avec ce qu'il a montré maintenant, et s'il pèse sur la dernière semaine du tour, son tour sera réussi. Mais pour monsieur et madame tout le monde, on va dire bah c'est pas le bon, vous nous avez vendu un podium, il a explosé, il a pris 8 minutes, c'est pas l'élu, vous en avez fait des caisses, et ils vont l'enterrer avant même d'avoir tout analysé.
Oui, il y a le panache, hein.
C'est lui qui doit progresser, c'est lui qui doit continuer à travailler, c'est lui qui doit être dans les standards qu'il veut être. Il veut être la deuxième force après Pogacar.
Il y a aussi la dimension stratégique et les perspectives pour ce cours-là. Il doit apprendre à courir le Tour de France et donc la stratégie est importante pour les prochaines joutes, parce que c'est un potentiel vainqueur. Tiens. Donc il doit apprendre aussi à gérer ses efforts.
On continue d'en parler dans un instant. Est-ce que Sexas doit viser la deuxième place sur le Tour au 32-16? On vous attend, on va vous donner la parole. Évidemment, on est avec Jérôme Coppel et avec toutes les grandes gueules du sport. Et vous au 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Centre deuxième poteau, la mini aval, la mini aval. La mini aval, go.
Les grandes gueules du sport.
Messi encore, Messi la frappe.
Messi.
Le triplé de Léo Messi.
Georges Quilino. Comment tu fais, Fred Veil?
Goal.
Alors, je sens que t'as bossé en Espagne, toi, quand même. Hein. Sacré poumon. Hein. Ouais. C'est incroyable. Entre Pascal, tout à l'heure, qui nous a envoyé sa voix, là. C'était Fred Weiss qui commentait la but de Messi. Marion Bartoli et Sarah Pitkowski sont là. Jérôme Coppel sur la route du tour. Et évidemment, Argentine-Espagne, finale de la Coupe du Monde, 21h ce soir sur RMC. On en parle dans un instant. Est-ce que Messi est plus important que cette finale? Son histoire? Est-ce que c'est ce qui écrase tout avant le match ce soir pour aller décrocher une nouvelle étoile? Mais donc, on est en train de parler de Paul Sexas. Est-ce qu'il doit viser la deuxième place? Tiens, les propos de Fred ont fait réagir, notamment il y a quelques instants, sur le côté peut-être tout risquer au risque de tout perdre, parce que c'est son premier tour. Sylvain est au 32-16 avec nous, il appelle depuis La Rochelle. Salut Sylvain.
Salut l'équipe.
Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il doit viser la deuxième place? Est-ce qu'il doit prendre tous les risques pour nous enflammer et peu importe le résultat final?
À 19 ans, il n'a pas la pression, c'est son premier tour, donc il finit deuxième, cinquième ou sixième. Moi, je m'en fous. Le principal, voilà, c'est qu'il prenne du plaisir, comme il dit, il prend du plaisir sur le vélo. Hier, il a terminé, pas loin de Pogacar, mais Pogacar, on va dire que il y a Pogacar, il y a les autres.
Oui, bien sûr.
Il a le contre-la-montre, surtout, voilà, qui va peut-être déterminer le podium à Paris. Aujourd'hui, il va passer pas loin de chez ses grands-parents. Est-ce qu'il aura les jambes pour aller chercher peut-être la victoire? On sait jamais, parce que Pogacar, on sait qu'il va faire la Vuelta. Donc, il a utilisé beaucoup ses hommes. Est-ce qu'il va, s'il veut gagner aujourd'hui, il va y aller. Mais s'il veut pas gagner, dans tous les cas, on sait qu'il sera meilleur jaune.
Non, mais toi, ce que tu dis, c'est que s'il a les jambes, effectivement, il faut qu'il y aille, en fait. Donc, il faut qu'il prenne des risques.
Oui, s'il a les jambes aujourd'hui, le petit clin d'œil à papy mamie, il peut gagner l'étape.
Non, mais c'est intéressant. Marion, j'entendais que t'étais pas d'accord tout à l'heure. Franchement, est-ce que, justement, un premier Tour de France, c'est pas l'occasion aussi de tester ses limites? Puisque c'est un premier tour. D'aller voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut suivre les meilleurs.
Se tester vraiment.
Ouais. Non, mais c'est lui qui va le ressentir. Mais moi, ce que je voulais évoqué avant la publicité, c'est en fait de voir la trajectoire qu'il a depuis ce début du tour, et c'est pour ça je pense que son équipe sont en train vraiment de gérer de main de maître et ont parfaitement étudié justement les moments où il fallait qu'il prenne un peu plus de risques et les moments peut-être où il fallait qu'il temporise, parce qu'à la 8e étape, il était 6e à 3 minutes 55 derrière Del Toro, Evenepoel et Ayuso. Après la 11e, il était 5e, maintenant il est 4e. On voit très bien qu'ils sont en train de le faire monter progressivement. Après, bien sûr que c'est une ouverture, je vais pas lui dire maintenant reste derrière. Bien évidemment que s'il sent très bien et qu'il sent que Vingegaard a une défaillance et qui peut aller prendre des minutes ou des secondes, mais bien sûr, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est va pas imploser complètement en vol.
N'en fais pas une obsession, en fait. Voilà, exactement. Chercher la deuxième place.
Exactement. Mmh. Si elle se présente à toi, qu'il y a un fait de course et qu'elle est disponible, bien évidemment qu'il va y aller. On va pas lui dire non, reste derrière et joue la sécurité, bien sûr. Mais pour moi, Vingegaard, c'est quand même un doux vainqueur du Tour de France.
Ah non, mais bien sûr, il faut respecter.
De pas totalement de dire non, mais attends, il a un pain devant lui, c'est facile. Il a quand même un doux vainqueur du Tour de France pour aller le taper.
Si Pogacar est un extraterrestre, Vingegaard est un super-héros, un Avenger depuis quelques années quand même. Jérôme, tu voulais réagir.
Oui, il y a prendre des risques. Quand je dis qu'il doit pas viser la deuxième place, je dis pas qu'il doit pas attaquer et qu'il doit se contenter de suivre Vingegaard. Pas du tout. Il doit faire un peu comme il a fait hier. Rappelez-vous, hier, lui, il tente. Déjà, il y a Lipovitz qui attaque et Paul Sexas y va. Tadej Pogacar ne réagit pas. Tadej Pogacar, il sait pas qu'il s'en fiche de Paul Sexas, mais Paul Sexas, c'est pas un danger. Il est à 5 minutes et je suis même persuadé que Tadej Pogacar serait très content que Paul Sexas gagne une étape sur ce Tour de France.
Et passe deux devant Vingegaard.
Ouais, par contre, bien sûr que dès que Vingegaard bouge, Pogacar y va. C'est pas que Vingegaard fait peur à Pogacar non plus, c'est simplement que Pogacar déteste Jonas Vingegaard. Ça, c'est encore un autre problème, et il aime bien Paul Sexas. Mais si, typiquement aujourd'hui, au plateau de Solaison, que Paul Sexas connaît par cœur, s'il voit que Jonas Vingegaard, dans la fin de l'ascension, est un peu juste, bien sûr qu'il va tenter, et bien sûr qu'il doit tenter. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit pas faire tapis à 10 km du sommet, au pied de la bosse, en disant, allez, je tente le tout pour le tout, j'essaye de faire exploser Vingegaard et qu'il reprenne, et qu'il prenne un coup de bâton.
C'est vrai qu'on s'enflamme un peu parce que, moi, franchement, et je pense que Sarah, tu partages ça. Quand j'ai vu même son visage hier, on est sur une deuxième semaine de Tour de France. C'est une découverte pour lui. Son visage et sa personnalité. Alors, je sais qu'on a vu beaucoup de choses cette année. Il nous surprend à chaque fois. On le connaît maintenant. Mais mince, quoi. On est en Ligue des Champions là, en fait. On est en Ligue des Champions et le garçon.
Quand t'es un génie, hein. C'est comme ça. Hein. Donc il a toutes les capacités, il a tout. Et après, alors pour reprendre une fameuse expression, faut pas lui parler d'âge, mais il faut pas uniquement regarder que son âge et sa jeune expérience. Il a les capacités, il a ce génie en lui, et on a la chance de l'avoir. Mais moi, je veux pas qu'on le force à faire quelque chose qui serait aussi contre-productif pour lui.
Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut hein, depuis le début de la saison. Exactement. Et qu'il le gère bien, Sarah.
Exactement. Oui, surtout son équipe gère très bien.
Oui, il le gère bien, et dans ses propos d'après étape hier, il disait qu'il s'était bien entraîné en altitude. On sent qu'il a pas pioché, en fait.
Ils ont fait des longs stages, hein,
Il semble pas avoir pioché dans ses réserves pour pouvoir continuer encore à attaquer sur des ascensions.
C'est que il attendait quand même la troisième semaine, puisque la troisième semaine n'a pas encore commencé.
Exactement.
La troisième semaine, c'est quand même le juge de paix.
Quand tu regardes les images, la manière dont il se positionne, en fait, quand il y a encore Vingegaard devant, qu'il y a Pogacar derrière, et que t'as Sexas qui est derrière, qui essaie à un moment de prendre le relais. Ce qu'on mesure pas, et c'est pour ça que quand on écoute nos deux Jérômes et tout l'intégral Tour, c'est génial, c'est c'est ultra stratégique, le vélo. Et quand tu le regardes comme ça d'un œil, tu te rends pas compte, mais quand on t'explique les stratégies, tu comprends qu'en fait,
c'est pas que des abrutis qui appuient sur des pédales, hein,
ça. Mais non, je dis pas ça, mais c'est pas évident à comprendre, en fait.
Mais il y a un des deux Jérôme qui comprend,
mais oui, Jérôme, c'est l'autre GG, mais il n'est pas là, on peut lui dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'explications pour comprendre, et effectivement, au-delà du fait que c'est un physique extraordinaire, c'est qu'il semble à son jeune âge, même si on veut pas parler d'âge, qu'il ait un sens tactique aussi de course. Et ça, on le perçoit quand on regarde la course du début jusqu'à la fin, pas juste des résumés.
Déjà, il semble se connaître tellement bien que c'est pour ça l'aide aussi tactiquement. Parce que quand tu te connais, c'est plus facile aussi.
Il a des super coéquipiers aussi.
Mais Fred, il se connaît. Mais Jérôme, on l'a aussi vu avoir des moments d'euphorie cette saison, qui nous a rappelé son jeune âge, notamment sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, je ne vois pas un gamin euphorique, en fait, Jérôme.
Non, parce que c'est le Tour de France et puis parce qu'il a pris sa chute justement au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le début d'année, tout se passait très très bien pour Paul. Il était en confiance, il n'y avait pas de problème pour lui. Et d'un coup, il se rend compte. En tout cas pour le Tour, oui, parce que d'un coup il s'est rendu compte que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais ce qui est le plus impressionnant, moi, ce qui m'impressionne le plus chez Paul Sexas, c'est pas ses capacités physiques, parce que ça, à la limite, c'est chiffré, on le sait depuis longtemps. C'est juste, il faut plus ou moins de temps pour qu'il le prouve sur la route. Il est déjà en train de le prouver. Mais c'est sa maturité avec son comportement dans son équipe, sur la course, dans les interviews. Hier, il nous a fait une interview en anglais qui était encore meilleure que celle en français dans l'analyse. Enfin, il est incroyable, ce coureur.
C'est peut-être parce que t'as pas compris l'interview en anglais.
Vous savez, là, il y a tous ces datas, il y a tout ça, il y a tout ce que vous voulez. Mais Paul, vous l'avez dit, au niveau du visage, il est pas marqué. Et quand il parle de sensations, il dit « je me sens bien, je me sens de mieux en mieux ». Mais la troisième semaine, c'est une inconnue pour lui. Mais la deuxième semaine, ça en était déjà aussi une inconnue pour lui. Et il a l'air d'aller de mieux en mieux. Et il prend la mesure du Tour. Il se rend compte de ce qu'est le Tour de France. Et on sent d'ailleurs, depuis, par rapport au départ à Barcelone, que dans les interviews, c'est mieux. Il est plus souriant. Au début, on a senti qu'il découvrait un autre monde. Le Tour de France, c'est vrai, c'est pas le Giro, c'est pas la Vuelta, c'est pas le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et après la première étape de sprint et la première étape de grosse montagne de haute montagne à Gavarnie, là, il s'est rendu compte ce que c'était le Tour, et il s'est surtout rendu compte qu'il avait les jambes pour jouer. Et en troisième semaine, de toute façon, la troisième semaine du Tour remet tout le monde à sa place. Que vous soyez un grand champion ou un débutant comme lui, le Tour remet tout le monde à sa place en troisième semaine. Et lui, sa place, ça sera pas à la 20e.
La troisième semaine arrive là, hein. C'est demain, la troisième semaine, même si demain c'est repos. Je remercie Sylvain d'avoir été avec nous. 32-16. Anthony nous appelle de Gironde. Salut Anthony.
Bonjour, salut à tous. Bonjour.
Est-ce que c'est que ça se doit viser la deuxième place? On risque de tout perdre.
Ouais, voilà, c'est plus ça, c'est au vu de son début du Tour, là, on risque de tout perdre. Moi, ce que je vois, c'est que il est punchy, il a les cannes. Moi, je vois plutôt un jeune Sexas qui devrait pas se mettre la pression au niveau du classement général, qui devrait aller de l'avant, parce que hier, en vérité, quand je vois comment il rentre sur Vingegaard, il aurait dû au moins lever le cul pour essayer d'aller avec Pogacar pour potentiellement aller chercher l'étape.
Ah mais t'as vu à Liège-Bastogne-Liège, hein, quand il essaie de suivre Pogacar, tu peux aussi prendre cher derrière, mais c'est, ça peut être aussi l'occasion de se tester. Non mais c'est intéressant.
Toi, t'as envie qu'il se teste à Pogacar. Voilà, qui se teste à Pogacar, et surtout, il a le punchy, il sait qu'il peut le suivre, et hier, Pogacar, il m'a pas impressionné. Sur son attaque d'hier, il a pas impressionné, et quand je vois que Sexas, comment il a réussi à arriver à faire le sprint, à l'arrivée sur Vingegaard, je pense qu'il aurait dû lever le cul et y aller de l'avant. C'est son premier tour, il a rien à perdre.
Il est pire que moi, cet auditeur, parce que moi, je me disais, là, qu'il soit à la deuxième force, ça serait déjà intéressant, et lui, il veut
carrément que ce soit la première. Mais sur le côté, se tester ses limites,
c'est hyper important.
C'est intéressant ce que dit Anthony. Non, mais j'imagine Anthony devant sa télé hier, il devait être debout comme un fou sur l'avancée du hack. Juste, Pascal, je me rappelle, il y a une semaine, on se posait la question, est-ce que Sexas, après sa première semaine, vous bluffe? Vous étiez beaucoup à dire non, parce qu'en fait, ça correspondait à ce que peut-être vous attendiez avant. Si je te repose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dis?
Ouais, c'est plus marqué aujourd'hui. Ma réponse, elle est difficile à te la donner. Autant la semaine dernière, je te disais non, parce qu'il est dans les standards qu'on nous a vantés à juste titre depuis longtemps. Et là, oui. Franchement, oui. Et vous me dites, faut pas parler de son âge. Oui, moi, je vais vous en parler. Je crois qu'il n'a que 19 ans. Ça situe la performance du garçon. Et comme l'a très bien dit Jérôme, il a l'air d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, dans l'équipe dimensionnée pour lui.
Mais c'est ça qui nous enflamme, en fait. C'est qu'il dégage incroyable. Une tranquillité, voilà. En fait. Il dégage une tranquillité.
Et c'est pour ça que je vais contre l'avis de Fred. Je le préfère être un peu plus calculateur, parce que je souhaite très vraiment qui confirme tout son talent en finissant sur le podium, mais en calculant jour après jour et en ne se grillant pas
sur, et en ayant quelque chose de concret,
ne prenant pas ce risque là
à la fin de se dire j'ai fait trois, en ayant quelque chose de concret peut-être à la fin du tour, se dire voilà, j'ai fait trois semaines du tour, j'ai cette régularité là.
Non mais c'est vrai, mais que... ça te permet pas de travailler justement, de te dire ok, j'ai tout tenté, il me manque ça, peut-être que j'aurais mieux fait de faire ça.
Mais
ce que je veux dire, c'est que si tu vises encore plus haut, tu prends des risques, peut-être que tu sais justement le genre de risque que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas prendre.
C'est que ça, doit-il viser la deuxième place sur le compte X des grandes gueules du sport? Ça n'a pas bougé, vous dites oui à 75%. Voilà, vous enflammez, hein, évidemment, et c'est très bien, évidemment, de qui cet élan derrière Paul Sexas. Je remercie Anthony d'avoir été avec nous et qui sera, j'en suis sûr, à l'écoute de l'intégral tour des 13h avec toi, Jérôme Coppel. Merci d'avoir été avec nous.
Bien sûr. Merci à vous. Salut les gars, Jérôme. Et les filles.
Ciao. Il fait beau là-haut, là, pas de pluie aujourd'hui.
On sera pas tout à fait au plateau de Solaison, mais il va faire grand soleil et on vient surtout dans le plus beau département du monde.
Petit beignet de pommes de terre en haut.
Exactement.
Bon appétit.
C'est salé ou c'est sucré ça, un beignet de pommes de terre?
Non, c'est salé.
Ah,
salé,
d'accord. J'en sais rien, je peux mettre du sucre.
Au plateau de Solaison.
Tout à l'heure, 15e étape champagnole, plateau de Solaison, donc pour cette 15e étape. Dans un instant, on va lancer la finale de la Coupe du Monde. Bah oui, et finale de la Coupe du Monde ce soir, hein. 21h, Argentine-Espagne. Est-ce que Messi est plus important que cette finale? Lui qui peut peut-être mettre tout le monde d'accord ce soir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, avec les grandes gueules du sport, avec Pascal Duprat, avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski, Marion Bartoli et vous, 32-16, on va se poser cette question. Est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de Zidane? Tiens, oui ou non, Marion Bartoli?
Oui.
Aïe, Zizou, quand est-ce qu'on va savoir ça? Ah, Zinedine.
Mais laisse-le tranquille, ouais. Zizou.
Après tout ce que tu as fait, on va te voir maintenant sur le banc de l'équipe de France. Enfin, je sais pas, ça n'a pas été annoncé encore. Hein. Peut-être que.
Ce
sera pas lui.
Je sais pas. Eric Dimeco nous a dit hier que Dugas lui avait dit que. Donc,
c'est sûr, c'est fait, c'est archi fait. Tout le staff qui a déjà été mis en place, il y a les montants qui ont été négociés, c'est archi fait.
Marion, je te mets pour toujours dans ma team premier degré. Pour aller chercher ces gars qui sont là. Allez, tout de suite, les amis, j'y crois pas spécial. Argentina-Espagne, c'est la finale de la Coupe du Monde à l'accent espagnol à 21h.
On est dans les clichés, on est jusqu'au bout.
Marion, t'as trop regardé ce animé avec Speedy Gonzalez. C'est un poil caricatural, un poil.
Argentine-Espagne.
Tout le monde ne parle presque que de lui.
RMC, les grandes gueules du sport.
La pelota para Messi, buena. Viene Messi, encara Messi, viene Messi, la cambio Messi. Pelota de izquierda, viene Nico, el medio. Messi. ¡Gol!
J'y crois pas.
Le commentaire de Fred Weiss, il y a quelques jours, sur le but de Lionel Messi. Incroyable, invraisemblable. La Pulga, qui a 39 ans, va disputer une troisième finale de Coupe du Monde ce soir et tenter de décrocher une nouvelle étoile. Alors, une quatrième pour l'Albicéleste. Oui, 4 ans après avoir été sacré au Qatar, quand tout le monde pensait qu'il s'agissait déjà de sa dernière danse. Messi, 8 buts, 4 passes décisives sur la compétition face à l'Espagne de Lamine Yamal, 18 ans, vainqueur du dernier Euro. La Roja rêve d'une deuxième Coupe du Monde après celle remportée en 2010 par la bande à Iniesta, Xavi et Casillas. Voilà l'affiche et je vous pose cette question, les amis, j'y crois pas. Est-ce que Lionel Messi est plus important que cette finale? C'est la question que je vous pose très simplement. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait le plus ce soir? Est-ce que c'est une victoire de l'Argentine, une victoire de l'Espagne ou est-ce que c'est l'histoire de Messi? Messi est-il plus important que cette finale, Fred?
Oui.
Sarah Pitkowski.
Un grand nom.
Marion Bartoli.
Non.
Pascal Duprat.
Un petit nom.
Hein, il est nuancé.
Mais
Pascal.
Il est encore toi-même tout seul. Hein.
Non, je suis un peu d'accord avec Fred. Je suis un peu d'accord avec Fred, mais en général. C'est ça. On a demandé à Valentin Jamin sur place à New York d'aller voir ce qui monopolise l'attention avant cette finale. From Times Square. Ça donne quoi, Valentin?
Oh,
on va l'écouter dans un instant. Il était au milieu des supporters argentins, notamment. Bon, on vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. Valentin, ça ressemble à quoi?
Salut les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous.
Salut.
Bon, dis-nous, Times Square, les Argentins, c'est ça, ils étaient des milliers hier, hein?
Et oui, c'est vraiment impressionnant. Il y a des milliers d'Argentins ici à Times Square. Il y a d'immenses drapeaux avec le numéro 10 de Maradona, des photos de Maradona ici. Et puis, bien sûr, des drapeaux avec Lionel Messi qui embrasse la Coupe du Monde. On le sent. Il y a des maillots également partout. C'est vraiment impressionnant de Lionel Messi. On sent que si jamais il ramène la deuxième Coupe du Monde, sa deuxième Coupe du Monde, il changera encore un peu plus de dimension. En tout cas, il sera le meilleur.
On a vu Maradona quand on était petit à la télé. Mais grâce à Dieu, on peut voir Messi en vrai aujourd'hui. On est très chanceux.
Cette équipe donne tout ce qu'elle peut. Et puis on a Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Il va encore le confirmer ce soir.
Il y a une vraie foi en cette équipe avec tous les résultats et les scénarios qu'on a connus. Tout le monde a l'impression qu'il ne peut rien arriver à ces Argentins. Une Argentine me disait tout à l'heure, il y a Messi qui est la tête pensante et puis il y a les autres, c'est les soldats.
Il y a un leader et le reste de l'équipe le suit. Il y a Messi. Le sélectionneur Scaloni aussi, ce sont les deux têtes fortes et derrière, l'équipe suit ensemble.
Voilà, ils ont du mal à trancher le débat, Messi ou Maradona, c'est quasiment pas faisable pour eux, mais bien sûr tout le monde veut qu'ils ramènent une autre étoile. Et puis aussi quand je lève la tête, ça c'est fou, il y a du Lionel Messi sur Times Square, sur les écrans géants, partout, en gigantesque, avec le maillot, avec ses sponsors. Il y a du Lionel Messi qui dépasse le cadre du foot évidemment, mais voir tous ces Argentins et voir toutes ces publicités avec Léo Messi, ça fait quelque chose de très particulier.
Allez, plonger à Times Square avec Los Bombos Argentinos, évidemment. On annonce 50 000 Argentins pour cette finale à New York, pas dans le stade, évidemment. Mais voilà, ça va être évidemment une finale assez folle face à la Roja tout à l'heure à 21h. Est-ce que Messi est plus important que cette finale? Tiens, je voudrais écouter Pascal d'abord, parce que je voudrais comprendre son petit nom.
Bah parce qu'en fait, l'Argentine de Messi incarne, malgré ou grâce ou peut-être malgré que Messi soit une superstar, incarne le collectif. Et je suis certain que Messi, il veut pas être dissocié de son équipe d'Argentine, qui va tout faire avec ses coéquipiers pour être champion du monde. Donc c'est ce qui me gêne en fait. L'histoire retiendra que Messi va peut-être être le footballeur de tous les temps s'il venait à gagner cette deuxième Coupe du Monde. Mais je suis certain qu'au fond de lui-même, il peut pas se dissocier de son collectif. L'Argentine, elle incarne le collectif tel que on l'apprécie ici. On est un amateur de sport collectif. Quoi qu'on en dise, que les Argentins vous plaisent ou non, ils vont au bout des choses et ils vont au bout des choses tous ensemble. Et le leader de ce collectif, c'est Messi. C'est pas le soliste et avec un collectif à son service. Non, Messi, c'est le collectif avant tout qui fait briller l'individualité qu'il est. Voilà ce que
il prend quand même beaucoup de place dans ta soirée. Mais,
il prendra de la place dans la soirée. Mais l'équipe d'Argentine est incroyable.
Et lui-même a fait un post collective. Sur Instagram ce matin pour mettre en valeur son équipe et le fait qu'il faudra valoriser le chemin fait par ces Argentins. Sarah,
avant de vous donner mon avis, j'ai lu des choses. Alors peut-être que c'est de la perception de la presse française, mais je lisais comme quoi en fait ces coéquipiers c'est au-delà des soldats, c'est ils sont prêts à se faire découper le tibia, à se faire arracher la cheville. Enfin,
Le cas il y a 4 ans, c'est vrai que c'est encore le cas.
Même encore là, j'avais l'air de comprendre que c'était tout pour Messi plus qu'un collectif. Mais bon,
c'est un tout pour Messi dans le collectif en fait.
Oui. Moi en tout cas, je le percevais comme quelqu'un de plutôt très égocentrique
égoïste.
Mais bon, très bien. En revanche, moi je vous parle sur cette question-là, plus important que cette finale, non, une finale de Coupe du Monde, celle-ci ou encore d'autres, une finale de Coupe du Monde restera toujours au-dessus de n'importe quel joueur. Après,
toi ce qui t'intéresse, c'est qui va soulever le trophée, surtout la nation.
Oui, exactement. Et certes, il fait partie de la principale attraction de ce match-là. Mais une Coupe du Monde
reste. Il fait la une de tous les médias du monde entier aujourd'hui.
Oui, mais une finale de Coupe du Monde reste au-delà de n'importe quel joueur. Donc voilà, pour moi, elle sera, quoi qu'il arrive, c'est une énième Coupe du Monde. Elle sera historique parce que cette Coupe du Monde aux États-Unis, on a quand même vécu des choses qui étaient assez incroyables. Enfin, il y a ces trois pays, il y a ces 48 pays sur la ligne de départ. départ, le show à la mi-temps, il y a eu des choses qui sont à retenir dans cette Coupe du Monde 2026.
Dans 50 ans, on se dira quoi si Messi a gagné la Coupe du Monde?
Ah, mais s'il l'a gagné, qu'il a gagné un back-to-back. Ah ben oui, voilà.
Mais en fait, il écrasera peut-être l'histoire. Marion, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais en fait, tu sais, c'est la même histoire que est-ce que Rafa est plus grand que Roland Garros, en fait. Et si tu veux, la finale de la Coupe du Monde restera toujours au-dessus de n'importe quel joueur. Alors, même si moi, je suis absolument fan de Messi et que j'ai toujours admiré ce joueur et que je trouve que ses stats sont absolument extraordinaires. Et puis surtout, le clin d'œil du destin est tellement fort puisqu'en fait, il avait, annoncé sa retraite internationale de l'équipe d'Argentine en 2016 après une défaite en finale de la Copa América contre le Chili dans ce même stade où il va jouer ce soir.
Il va jouer
ce soir pour aller remporter sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Donc bien évidemment que le joueur, les superlatifs nous manquent et bien sûr que je suis fan absolu du joueur, mais rien ne peut être au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, quelle que soit la qualité du joueur. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que sur la victoire par exemple sur l'Angleterre, c'est pas Messi qui marque. C'est Fernandez et Martinez. Alors Martinez sur le deuxième but, c'est bien évidemment une passe de Messi.
Ah oui, mais les assistes de Messi. Mais le protagoniste,
oui,
c'est Messi.
Oui,
celui
mais si
qui
tu veux,
c'est Messi, comme le match d'avant.
Oui, mais là où Sarah a complètement raison, c'est que il a 10 soldats avec lui qui sont prêts à mourir pour cette équipe d'Argentine, comme
mais
d'ailleurs
ils sont
11, Messi.
11 soldats, Marion.
Comme Messi,
c'est
comme
11 soldats.
Oui, mais comme Messi est prêt à mourir pour cette équipe, moi ce que je trouve fabuleux dans leur équipe et dans leur manière de d'être sur le terrain. Alors bien sûr que la finale de la Coupe du Monde contre eux en 22 m'a profondément marqué, mais ce que je trouve ce qu'il faut vraiment saluer, c'est cet esprit d'équipe quoi quand ils portent le maillot, mais c'est des guerriers au-delà de tout et ça faut vraiment le saluer. Et puis ils ont quand même un fond de jeu qui est exceptionnel parce que je regardais leurs stats. C'est quand même une équipe qui a marqué au moins 2 buts lors de 13 matchs consécutifs. La dernière fois où ils n'ont pas marqué au minimum 2 buts, c'était sur l'Arabie Saoudite, donc sur la Coupe du Monde de Qatar en 2022.
Ils ont marqué 19 buts sur 7 Coupes du Monde.
Hein. Exactement.
Et surtout des revenants.
Et ils ont marqué 12 buts dans les 15 dernières minutes.
Mais oui, mais c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. C'est leur état d'esprit sur le terrain. Moi, je trouve ça fabuleux. Mais tu ne peux pas dire qu'un joueur est au-dessus d'une finale de Coupe du Monde.
Fred n'est pas d'accord.
Je peux le dire, évidemment. Et en plus, je vais le dire assez facilement, Marion. J'ai écouté ce que disait Sarah, et j'ai pris un point qui m'intéressait. Elle a dit une énième Coupe du Monde, oui, parce que dans 50 ans ce sera une énième Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026.
T'as raison.
Sauf que, si Messi gagne ce trophée-là, on se rappellera de Messi. On parlera de lui comme Maradona,
oui.
Comme Pelé, oui, mais peut-être même plus, comme Mohamed Ali, comme Michael Jordan.
La Coupe du Monde restera toujours la Coupe du Monde. Et ça sera toujours au-dessus d'un simple joueur.
Donc qu'est-ce qui m'importe ce soir? Pourquoi j'ai envie de regarder? Pourquoi j'ai envie de regarder particulièrement ce match?
T'as envie de voir marquer?
J'ai envie de voir l'histoire devant moi. J'ai envie de voir quelque chose de fantastique. J'ai envie de voir quelque chose qui ne se produit pas tous les 4 ans. C'est quelque chose qui, d'un joueur de 39 ans, qui a 35 ans, à la dernière Coupe du Monde, on disait, c'est sa dernière. Il est encore meilleur maintenant. Il peut-être gagner un ballon d'or. Grâce à cette victoire en Coupe du Monde, il est en train d'écrire l'histoire, de marquer l'histoire. Et moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est pas uniquement les victoires, les défaites, c'est l'histoire qui est marquée ou pas. Et Messi, s'il gagne cette Coupe du Monde, il va marquer au fer rouge.
Ah non, mais là, c'est
l'histoire
c'est
du sport,
c'est
mais pas du football.
Mais il va y participer. Je suis d'accord avec toi. Il va participer à cette finale. C'est un moment d'histoire qui peut être vécu ce soir.
Mais il en fera partie. Il va l'écrire. Parce que ça sera la tête d'affiche de ça.
Mais Sarah.
Il va pas l'écrire tout seul.
Oui, mais attendez, les amis.
Il va écrire son histoire.
Demain matin. On est d'accord.
Écoutez-moi bien. Demain matin. L'Argentine est championne du monde.
C'est la tête de Messi
qui va à la une de tous les journaux du monde entier.
Messi, c'est évidemment
Messi, le joueur éternel.
Et dans 50 ans, on sera
Messi
en 2020.
Sportif,
qui était dans l'équipe dans 50 ans, est-ce qu'on se rappellera
qui gagne?
C'est
l'Espagne
qui gagne,
on va mettre qui alors?
C'est pour ça qu'il nous intéresse, c'est Messi.
Alors que c'est pas celui qui a fait, c'était fortement l'artisan de la victoire d'Espagne.
L'histoire de Yamal est pas aussi écrasante que celle de Messi.
Parce qu'on est au début.
Mais dans 10 ans, peut-être qu'on dira la même chose de Yamal. Dans 10, 15 ans, on dira peut-être la même chose. Sauf qu'à l'instant T, ce qui est important sur cette finale, c'est de voir un joueur fantastique à 39 ans, à la fin de sa carrière sportive, peut-être potentiellement gagner deux coupes du monde de suite.
Djokovic, bon, il a combien de grands chelems?
24.
Au début de l'année, au moment de la finale de l'Open d'Australie, souvenez-vous qu'on avait suivi ici, Djokovic avait battu Sinner en demi-finale. Il arrive en finale face à Alcaraz. Il a quel âge aujourd'hui, Djoko? Il
39.
On s'était posé la question, si Djoko gagne à cet âge-là, face à ces jeunes-là, une finale de l'Open d'Australie, est-ce que ce sera pas le plus grand sportif de tous les temps. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il va gagner l'Open d'Australie une énième fois? On s'est posé la question de l'impact dans l'histoire qu'aurait un succès de Djokovic.
L'histoire est au-dessus de tout.
Donc, en fait, c'est ça. Quel impact? En fait, la question qu'on va se poser demain matin, c'est quel impact ça aura eu pour nous tous, en fait.
Donc, sa question est complètement différente. Ben c'est... Oui, c'est une question qui est complètement différente.
Donc ta question n'est pas bien posée. C'est si Messi gagne, est-ce qu'on ne retiendra que l'exploit de Messi plutôt que la victoire de l'Argentine? Là, tu me poses la question.
Il sera
au-dessus
de tout. Il sera situé au-dessus de tout. Il sera situé au-dessus de la finale. Il sera situé au-dessus de tout.
Mais à une seule et unique condition.
Qu'il gagne, évidemment.
Évidemment.
Mais oui, s'il perd, il n'y a aucun sens.
Moi, je n'ai pas pris comme
tu sais une question. Tu sais ce qui est logique. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu parles, tu as cité Djokovic, quand tu parles à Djokovic, quand tu parles à Federer, quand tu parles à Nadal, alors qu'ils ont marqué l'histoire, alors plus que marqué l'histoire de tous les tournois du Grand Chelem, ils te disent tous que les tournois du Grand Chelem restent au-dessus d'eux. C'est normal. Un sportif ne fait que passer. Un événement restera à vie. Tu peux pas mettre un sportif au-delà d'un événement. C'est pour ça que la question est différente.
Après, il y a ce qu'ils disent les sportifs et il y a ce que ressentent les suiveurs et les fans de sport.
Mais si tu veux poser la question par rapport à Messi et son exploit individuel et ce que ça représente par rapport, est-ce que ça serait le plus grand exploit du foot de l'histoire? Là, oui, on peut se poser la question, bien évidemment.
Juste rapide, un petit tour de table rapide. S'il gagne la Coupe du Monde ce soir, il mérite un 9e ballon d'or?
Oui.
Sarah?
Je crois.
Pascal, Et maintenant je vous pose la question très rapidement, qui va gagner la Coupe du Monde ce soir, selon vous? Sarah?
Je mets un ticket sur l'Espagne.
Fred?
Je suis fan de Cucurella, donc
l'espagnol chevelu.
Messi qu'en rhume Cucurella et 1-0 pour l'Argentine.
1-0 pour l'Argentine. Marion?
Plutôt l'Espagne, mais je pense que ça ira au tir au but.
Ah, au tir au but, attention, au tir au but, il y a deux sacrés gardiens entre Unai Simon et Dibu Martinez. Ça sera en tout cas une sacrée finale. On rappelle, c'est tout simplement le champion d'Europe face au champion d'Amérique du Sud. Donc, c'est une confrontation entre colosses ce soir en MetLife Stadium de New York. Vous ne raterez rien sur RMC, évidemment, dès 20h avec Jean-Louis Tour sur place avec l'After Live et on vous fera vivre cette finale jusqu'au bout de la nuit avec toute l'équipe de l'After. Argentine-Espagne qui aura une étoile en plus sur le maillot. Ce soir, allez les amis, dans un instant, on va parler d'un garçon qui a pour objectif de nous en amener une autre d'étoile. C'est Zinedine Zidane, attendu dans les prochains jours pour être intronisé comme nouveau sélectionneur des Bleus. Est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de lui? On attend pour en parler avec vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.